Nana, cependant, en voyant rire la salle, s'était mise à rire. La gaieté redoubla. Elle était drôle tout de même, cette belle fille. Son rire lui creusait un amour de petits trous dans le menton. Elle attendait, pas gênée, familière, entrant tout de suite de plein pied avec le public, ayant l'air de dire elle-même, d'un clignement d'yeux, qu'elle n'avait pas de talent pour de liard, mais que ça ne faisait rien, qu'elle avait autre chose. Et, après avoir adressé au chef d'orchestre un geste qui signifiait « Allons-y, mon bonhomme !» elle commença le second couplet. « À minuit, c'est Vénus qui passe. » C'était toujours la même voix vinaigrée, mais à présent, elle grattait si bien le public au bon endroit qu'elle lui tirait par moments un léger frisson. Nana avait gardé son rire, qui éclairait sa petite bouche rouge et luisait dans ses grands yeux, d'un bleu très clair. À certains vers, un peu vifs, une friandise retroussait son nez, dont les ailes roses battaient, pendant qu'une flamme passait sur ses joues. Elle continuait à se balancer, ne sachant faire que ça. Et on ne trouvait plus ça vilain du tout. Au contraire, les hommes braquaient leurs jumelles. Comme elle terminait le couplet, la voix lui manqua complètement. Elle comprit qu'elle n'irait jamais au bout. Alors, sans s'inquiéter, elle donna un coup de hanche qui dessina une rondeur sous la mince tunique, tandis que, la taille pliée, la gorge renversée, elle tendait les bras. Des applaudissements éclatèrent. Tout de suite, elle s'était tournée, remontant, faisant voir sa nuque, où des cheveux roux mettaient comme une toison de bête. Et les applaudissements devinrent furieux. La fin de l'acte fut plus froide. Vulcain voulait gifler Vénus, les dieux tenaient conseil et décidaient qu'ils iraient procéder à une enquête sur la terre avant de satisfaire les maris trompés. C'était là que Diane, surprenant des mots tendres entre Vénus et Mars, jurait de ne pas les quitter des yeux pendant le voyage. Il y avait aussi une scène où l'amour, joué par une gamine de 12 ans, répondait à toutes les questions « Oui, maman. Non, maman. » d'un ton pleurnicheur, les doigts dans le nez. Puis, Jupiter, avec la sévérité d'un maître qui se fâche, enfermait l'amour dans un cabinet noir en lui donnant à conjuguer 20 fois le verbe « j'aime ». On goûta davantage le final, un cœur, que la troupe et l'orchestre enlevèrent très brillamment. Mais, le rideau baissé, la claque tâcha vainement d'obtenir un rappel. Tout le monde, debout, se dirigeait déjà vers les portes. On piétinait, on se bousculait, serré entre les rangs des fauteuils, échangeant ses impressions. Un même mot courait. « C'est idiot !» Un critique disait qu'il faudrait joliment couper là-dedans. La pièce importait peu, d'ailleurs. On causait surtout de Nana. Fauchery et la Faloise, sortis des premiers, se rencontrèrent dans le couloir de l'orchestre avec Stenner et Mignon. On étouffait dans ce boyau, étroit et écrasé comme une galerie de mine, que des lampes à gaz éclairaient. Ils restèrent un instant au pied de l'escalier de droite, protégés par le retour de la rampe. Les spectateurs des petites places descendaient avec un bruit continu de gros souliers. Le flot des habits noirs passait, tandis qu'une ouvreuse faisait tous ses efforts pour protéger contre les poussées une chaise sur laquelle elle avait empilé des vêtements. « Mais je la connais !» cria Stenner dès qu'il aperçut Fauchery. « Pour sûr, je l'ai vue quelque part. Au casino, je crois. » Et elle s'y est fait ramasser tant elle était saoule. Moi, je ne sais plus au juste, dit le journaliste. Je suis comme vous, je l'ai certainement rencontrée. Il baissa la voix et ajouta en riant. Chez la Tricon, peut-être. Parbleu, dans un sale endroit, déclara Mignon qui semblait exaspéré. C'est dégoûtant que le public accueille comme ça la première salope venue. Il n'y aura bientôt plus d'honnêtes femmes au théâtre. Ouais, je finirai par défendre à Rose de jouer. » Fauchery ne put s'empêcher de sourire. Cependant, la dégringolade des gros souliers sur les marches ne cessait pas. Un petit homme en casquette disait d'une voix traînante « Oh là là, elle est bien boulotte, il y a de quoi manger !» Dans le couloir, deux jeunes gens, frisés au petit fer, très corrects avec leur col cassé, se querellaient. L'un répétait le mot « infect, infect !» sans donner de raison. L'autre répondait par le mot « épatante, épatante !» dédaigneux aussi de tout argument. La Faloise la trouvait très bien. Il risqua seulement qu'elle serait mieux si elle cultivait sa voix. Alors Stenner, qui n'écoutait plus, parut s'éveiller en sursaut. Il fallait attendre d'ailleurs. Peut-être que tout se gâterait aux actes suivants. Le public avait montré de la complaisance, mais certainement il n'était pas encore empoigné. Mignon jurait que la pièce ne finirait pas. Et comme Fauchery et la Faloise les quittaient pour monter au foyer, il prit le bras de Steiner, il se poussa contre son épaule, en lui soufflant dans l'oreille. « Mon cher, vous allez voir le costume de ma femme au second acte. Il est d'un cochon !» En haut, dans le foyer, trois lustres de cristal brûlaient avec une vive lumière. Les deux cousins hésitèrent un instant. La porte vitrée, rabattue, laissait voir d'un bout à l'autre de la galerie une houle de têtes que deux courants emportaient dans un continuel remous. Pourtant, ils entrèrent. Cinq ou six groupes d'hommes, causant très fort et gesticulant, s'entêtaient au milieu des bourrades. Les autres marchaient par file, tournant sur leurs talons qui battaient le parquet ciré. À droite et à gauche, entre des colonnes de marbre jaspé, des femmes, assises sur des banquettes de velours, regardaient le flot passer d'un air las, comme alangui par la chaleur. Et derrière elles, dans de hautes glaces, on voyait leurs chignons. Au fond, devant le buffet, un homme à gros ventre buvait un verre de sirop. Mais Fauchery, pour respirer, était allé sur le balcon. La Faloise, qui étudiait des photographies d'actrices, dans des cadres alternant avec les glaces entre les colonnes, finit par le suivre. On venait d'éteindre la rampe de gaz au fronton du théâtre. Il faisait noir et très frais sur le balcon, qui leur sembla vide. Seul un jeune homme, enveloppé d'ombre, accoudé à la balustrade de pierre, dans la baie de droite, fumait une cigarette dont la braise luisait. Fauchery reconnut Daguenay. Ils se serrèrent la main. « Que faites-vous donc là, mon cher ?» demanda le journaliste. « Vous vous cachez dans les petits coins, vous qui ne quittez pas l'orchestre les jours de première. »« Mais je fume, vous voyez !» répondit Daguenay. Alors Fauchery, pour l'embarrasser, « Eh bien, que pensez-vous de la débutante ? On la traite assez mal dans les couloirs. » « Oh !» murmura Daguenay. « Des hommes dont elle n'aura pas voulu. » Ce fut tout son jugement sur le talent de Nana. La Faloise se penchait, regardant le boulevard. En face, les fenêtres d'un hôtel et d'un cercle étaient vivement éclairées, tandis que sur le trottoir, une masse noire de consommateurs occupait les tables du café de Madrid. Malgré leur avancée, la foule s'écrasait. On marchait à petits pas, du monde sortait continuellement du passage Jouffroy, des gens attendaient 5 minutes avant de pouvoir traverser, tant la queue des voitures s'allongeait. « Quel mouvement! Quel bruit !» répétait la Faloise, que Paris étonnait encore. Une sonnerie tinta longuement, le foyer se vida. On se hâtait dans les couloirs. Le rideau était levé, qu'on rentrait par bandes au milieu de la mauvaise humeur des spectateurs déjà assis. Chacun reprenait sa place, le visage animé et de nouveau attentif. Le premier regard de la Faloise fut pour Gaga. Mais il demeura étonné en voyant près d'elle le grand blond qui tout à l'heure était dans l'avant-scène de Lucie. « Quel est donc le nom de ce monsieur ? Demanda-t-il. Fauchery ne le voyait pas. Ah oui, la Bordette ! Finit-il par dire avec le même geste d'insouciance. Le décor du second acte fut une surprise. On était dans un bastringue de barrière, à la Boule Noire, en plein Mardi Gras. Des chienlits chantaient une ronde qu'ils accompagnaient au refrain en tapant des talons. Cette échappée canaille, à laquelle on ne s'attendait point, égaya tellement qu'on bissa la ronde. Et c'était là que la bande des dieux, égarée par Iris, qui se vantait faussement de connaître la terre, venait procéder à son enquête. Il s'était déguisé pour garder l'incognito. Jupiter entra en roi Dagobert, avec sa culotte à l'envers et une vaste couronne de fer blanc. Phébus parut en postillon de longs jumeaux et Minerve en nourrice normande. De grands éclats de gaieté accueillirent Mars, qui portait un costume extravagant d'amiral suisse. Mais les rires devinrent scandaleux lorsqu'on vit Neptune, vêtu d'une blouse, coiffé d'une haute casquette ballonnée, des accroche-cœurs collés aux tempes, traînant ses pantoufles et disant d'une voix grasse « De quoi, quand on est bel homme, faut bien se laisser aimer !» Il y eut quelque « Oh !» tandis que les dames haussaient un peu leurs éventails. Lucie, dans son avant-scène, riait si bruyamment que Caroline et Kay la fitèrent d'un léger coup d'éventail. Dès lors, la pièce était sauvée. Un grand succès se dessina. Ce carnaval des dieux, l'Olympe traînée dans la boue, toute une religion, toute une poésie bafouée, semblèrent un régal exquis. La fièvre de l'irrévérence gagnait le monde lettré des premières représentations. On piétinait sur la légende, on cassait les antiques images. Jupiter avait une bonne tête, Mars était tapé. La royauté devenait une farce et l'armée une rigolade. Quand Jupiter, tout d'un coup amoureux d'une petite blanchisseuse, se mit à pincer un cancan échevelé, Simone, qui jouait la blanchisseuse, lança le pied au nez du maître des lieux en l'appelant si drôlement « Mon gros père !» Qu'un rire fou secoua la salle. Pendant qu'on dansait, Phébus payait des saladiers de vin chaud à Minerve et Neptune trônait au milieu de 7 ou 8 femmes qui le régalaient de gâteaux. On saisissait les allusions, on ajoutait des obscénités. Les mots inoffensifs étaient détournés de leur sens par les exclamations de l'orchestre. Depuis longtemps, au théâtre, le public ne s'était vautré dans de la bêtise plus irrespectueuse. Cela le reposait. Pourtant, l'action marchait au milieu de ces folies. Vulcain, en garçon chic, tout de jaune habillé, ganté de jaune, un monocle fiché dans l'œil, courait toujours après Vénus, qui arrivait enfin en poissarde, un mouchoir sur la tête, la gorge débordante, couverte de gros bijoux d'or. Nana était si blanche et si grasse, si nature dans ce personnage fort des hanches et de la gueule, que tout de suite elle gagna la salle entière. On en oublia Rose Mignon, un délicieux bébé, avec un bourrelet d'osier et une courte robe de mousseline qui venait de soupirer les plaintes de Diane d'une voix charmante. L'autre, cette grosse fille qui se tapait sur les cuisses, qui gloussait comme une poule, dégageait autour d'elle une odeur de vie, une toute-puissance de femme dont le public se grisait. Dès ce second acte, tout lui fut permis, se tenir mal en scène, ne pas chanter une note juste, manquer de mémoire. Elle n'avait qu'à se tourner et à rire pour enlever les bravos. Quand elle donnait son fameux coup de hanche, l'orchestre s'allumait. Une chaleur montait de galerie en galerie jusqu'au cintre. Aussi fut-ce un triomphe lorsqu'elle mena le bastringue. Elle était là, chez elle, le poing à la taille, asseyant Vénus dans le ruisseau au bord du trottoir. Et la musique semblait faite pour sa voix faubourienne, une musique de mirliton, un retour de foire de Saint-Cloud, avec des éternuements de clarinette et des gambades de petites flûtes. Deux morceaux furent encore bissés. La valse de l'ouverture, cette valse au rythme polisson, était revenue et emportait les dieux. Junon, enfermière, pinçait Jupiter avec sa blanchisseuse et le calotait. Diane, surprenant Vénus en train de donner un rendez-vous à Mars, se hâtait d'indiquer le lieu et l'heure à Vulcain qui s'écriait « J'ai mon plan !» Le reste ne paraissait pas bien clair. L'enquête aboutissait à un galop final, après lequel Jupiter, essoufflé, en nage, sans couronne, déclarait que les petites femmes de la Terre étaient délicieuses et que les hommes avaient tous les torts. Le rideau tombait, lorsque, dominant les bravos, des voix crièrent violemment « Tous ! Tous !» Alors, le rideau se releva, les artistes reparurent, se tenant par la main. Au milieu, Nana et Rose Mignon, côte à côte, faisaient des révérences. On applaudissait, la claque poussait les acclamations. Puis, la salle, lentement, se vida à moitié. « Il faut que j'aille saluer la comtesse Muffat, » dit la Faloise. « C'est ça, tu vas me présenter, » répondit Faucherie. « Nous descendrons ensuite. » Mais il n'était pas facile d'arriver aux loges de balcon. Dans le couloir, en haut, on s'écrasait. Pour avancer au milieu des groupes, il fallait s'effacer, se glisser en jouant des coudes. Adossé sous une lampe de cuivre, où brûlait un jet de gaz, le gros critique jugeait la pièce devant un cercle attentif. Des gens, au passage, se le nommaient à demi-voix. Il avait ri pendant tout l'acte. C'était la rumeur des couloirs. Pourtant, il se montrait très sévère, parlait du goût et de la morale. Plus loin, le critique aux lèvres minces était plein d'une bienveillance qui avait un arrière-goût gâté, comme du lait tourné allègre. Faucherie fouillait les loges d'un coup d'œil par les baies rondes taillées dans les portes. Mais le comte de Vandœuvre l'arrêta en le questionnant. Et quand il sut que les deux cousins allaient saluer les Muffat, il leur indiqua la loge 7, d'où justement ils sortaient. Puis, se penchant à l'oreille du journaliste, « Dites donc, mon cher, cette nana, c'est pour sûr elle que nous avons vue un soir au coin de la rue de Provence. » « Tiens, vous avez raison !» s'écria Faucherie. « Je disais bien que je la connaissais !» La Faloise présenta son cousin au comte Muffat de Beuville, qui se montra très froid. Mais, au nom de Faucherie, la comtesse avait levé la tête, et elle complimenta le chroniqueur sur ses articles du Figaro, d'une phrase discrète. Accoudée sur le velours de la rampe, elle se tournait à demi dans un joli mouvement d'épaule. On causa un instant. La conversation tomba sur l'exposition universelle. « Ce sera très beau, » dit le comte, dont la face carrée et régulière gardait une gravité officielle. « J'ai visité le Champ de Mars aujourd'hui. J'en suis revenu émerveillé. » « On assure qu'on ne sera pas prêt, » hasarda la Faloise. « Il y a un gâchis !» Mais le comte, de sa voix sévère, l'interrompit. « On sera prêt, l'empereur le veut !» Faucherie raconta gaiement qu'il avait failli rester dans l'aquarium, alors en construction, un jour qu'il était allé là-bas chercher un sujet d'article. La comtesse souriait. Elle regardait par moments dans la salle, levant un de ses bras, ganté de blanc jusqu'au coude, s'éventant d'une main ralentie. La salle, presque vide, sommeillait. Quelques messieurs, à l'orchestre, avaient étalé des journaux. Des femmes recevaient, très à l'aise, comme chez elles. Et il n'y avait plus qu'un chuchotement de bonne compagnie, sous le lustre, dont la clarté s'adoucissait dans la fine poussière soulevée par le remue-ménage de l'entracte. Aux portes, des hommes s'entassaient pour voir les femmes rester assises, et ils se tenaient là, immobile une minute, allongeant le cou, avec le grand cœur blanc de leur plastron. « Nous comptons sur vous, mardi prochain !» dit la comtesse à la Faloise. Elle invita Fauchery, qui s'inclina. On ne parla point de la pièce, le nom de Nana ne fut pas prononcé. Le comte gardait une dignité si glacée qu'on l'aurait cru à quelque séance du corps législatif. Il dit simplement, pour expliquer leur présence, que son beau-père aimait le théâtre. La porte de la loge avait dû rester ouverte. Le marquis de Choire, qui était sorti afin de laisser sa place aux visiteurs, redressait sa haute taille de vieillard, la face molle et blanche, sous un chapeau à large bord, suivant de ses yeux troubles les femmes qui passaient. Dès que la comtesse eut fait son invitation, Fauchery prit congé, sentant qu'il serait inconvenant de parler de la pièce. La Faloise sortit le dernier de la loge. Il venait d'apercevoir, dans l'avant-scène du comte de Vandœuvre, le blond Labordette, carrément installé, s'entretenant de très près avec Blanche de Sivry. « Ah, ça !» dit-il dès qu'il eut rejoint son cousin. « Ce Labordette connaît donc toutes les femmes. Le voilà maintenant avec Blanche. » « Mais sans doute il les connaît toutes, » répondit tranquillement Fauchery. « D'où sors-tu donc, mon cher ?» Le couloir s'était un peu déblayé. Fauchery allait descendre lorsque Lucy Stewart l'appela. Elle était tout au fond, devant la porte de son avant-scène. « On cuisait là-dedans, » disait-elle. Et elle occupait la largeur du corridor, en compagnie de Caroline Eke et de sa mère, croquant des pralines. Une ouvreuse causait maternellement avec elle. Lucie querella le journaliste. Il était gentil, il montait voir les autres femmes, et il ne venait seulement pas demander si elles avaient soif. Puis, lâchant ce sujet, « Tu sais, mon cher, moi je trouve Nana très bien. » Elle voulait qu'il restât dans l'avant-scène pour le dernier acte, mais lui s'échappa en promettant de les prendre à la sortie. En bas, devant le théâtre, Fauchery et la Faloise allumèrent des cigarettes. Un rassemblement barrait le trottoir, une queue d'homme descendue du perron, respirant la fraîcheur de la nuit, au milieu du ronflement ralenti du boulevard. Cependant, Mignon venait d'entraîner Steiner au café des Variétés. Voyant le succès de Nana, il s'était mis à parler d'elle avec enthousiasme, tout en surveillant le banquier du coin de l'œil. Il le connaissait. Deux fois, il l'avait aidé à tromper Rose. Puis, le caprice passé, l'avait ramené, repentant et fidèle. Dans le café, les consommateurs, trop nombreux, se serraient autour des tables de marbre. Quelques-uns buvaient debout, précipitamment. Et les larges glaces reflétaient à l'infini cette cohue de têtes, agrandissaient démesurément l'étroite salle, avec ses trois lustres, ses banquettes de moleskine, son escalier tournant drapé de rouge. Steiner alla se placer à une table de la première salle, ouverte sur le boulevard, dont on avait enlevé les portes, un peu tôt pour la saison. Comme Fauchery et la Faloise passaient, le banquier les retint. « Venez donc prendre un boc avec nous !» Mais une idée le préoccupait. Il voulait rejeter un bouquet à Nana. Enfin, il appela un garçon du café, qu'il nommait familièrement Auguste. Mignon, qui écoutait, le regarda d'un œil si clair qu'il se troubla en balbutiant « Deux bouquets, Auguste, et remettez-les à l'ouvreuse, un pour chacune de ces dames. » Au bon moment, n'est-ce pas ? À l'autre bout de la salle, la nuque appuyée contre le cadre d'une glace, une fille de 18 ans ou plus se tenait immobile devant un verre vide, comme engourdie par une longue et vaine attente. Sous les frisures naturelles de ses beaux cheveux cendrés, elle avait une figure de vierge, aux yeux de velours, doux et candide. Et elle portait une robe de soie verte déteinte, avec un chapeau rond que des gifles avaient défoncé. La fraîcheur de la nuit la rendait toute blanche. « Tiens, voilà Satin !» murmura Fauchery en l'apercevant. La Faloise le questionna. « Oh, une rouleuse du boulevard, rien du tout !»« mais elle était si voyou qu'on s'amusait à la faire causer. Et le journaliste, haussant la voix, « Que fais-tu donc là, Satin ?»«
Je m'emmerde, »
répondit Satin tranquillement, sans bouger. Les quatre hommes charmés se mirent à rire. Mignon assurait qu'on n'avait pas besoin de se presser. Il fallait 20 minutes pour poser le décor du troisième acte. Mais les deux cousins, qui avaient bu leur bière, voulurent remonter. Le froid les prenait. Alors, Mignon, resté seul avec Stenner, s'accouda, lui parla dans la figure.
« Hein, c'est entendu, nous irons chez elle, je vous présenterai. Vous savez, c'est entre nous, ma femme n'a pas besoin de savoir. »
Revenus à leur place, Faucherie et la Faloise remarquèrent aux secondes loges une jolie femme, mise avec modestie. Elle était en compagnie d'un monsieur d'air sérieux, un chef de bureau au ministère de l'Intérieur, que la Faloise connaissait pour l'avoir rencontré chez les Muffat. Quant à Faucherie, il croyait qu'elle se nommait Madame Robert, une femme honnête qui avait un amant, pas plus, et toujours un homme respectable. Mais ils durent se tourner. Daguenet leur souriait. Maintenant que Nana avait réussi, il ne se cachait plus. Il venait de triompher dans les couloirs. À son côté, le jeune échappé de collège n'avait pas quitté son fauteuil, dans la stupeur d'admiration où Nana le plongeait. C'était ça, c'était la femme, et il devenait très rouge. Il mettait et retirait machinalement ses gants. Puis, comme son voisin avait causé de Nana, il osa l'interroger. « Pardon, monsieur, cette dame qui joue, est-ce que vous la connaissez ?»«
Oui, un peu, »
murmura Daguenet, surpris et hésitant. « Alors, vous savez son adresse ?» La question tombait si crûment, adressée à lui, qu'il eut envie de répondre par une gifle. « Non !» dit-il d'un ton sec. Et il tourna le dos. Le blondin comprit qu'il venait de commettre quelque inconvenance. Il rougit davantage et resta effaré. On frappait les trois coups. Des ouvreuses s'entêtaient à rendre les vêtements, chargés de pelisses et de paletots, au milieu du monde qui rentrait. La claque applaudit le décor, une grotte du mont Etna, creusée dans une mine d'argent et dont les flancs avaient l'éclat des écus neufs. Au fond, la forge de Vulcain mettait un coucher d'astre. Diane, dès la seconde scène, s'entendait avec le dieu qui devait feindre un voyage pour laisser la place libre à Vénus et à Mars. Puis, à peine Diane se trouvait-elle seule que Vénus arrivait. Un frisson remua la salle. Nana était nue. Elle était nue avec une tranquille audace, certaine de la toute-puissance de sa chair. Une simple gaze l'enveloppait. Ses épaules rondes, sa gorge d'amazone, dont les pointes roses se tenaient levées et rigides comme des lances, ses larges hanches qui roulaient dans un balancement voluptueux, ses cuisses de blonde grasse, tout son corps se devinait, se voyait sous le tissu léger d'une blancheur d'écume. C'était Vénus naissant des flots, n'ayant pour voile que ses cheveux. Et lorsque Nana levait les bras, on apercevait, au feu de la rampe, les poils d'or de ses aisselles. Il n'y eut pas d'applaudissements. Personne ne riait plus. Les faces des hommes, sérieuses, se tendaient, avec le nez aminci, la bouche irritée et sans salive. Un vent semblait avoir passé, très doux, chargé d'une sourde menace. Tout d'un coup, dans la bonne enfant, la femme se dressait, inquiétante, apportant le coup de folie de son sexe, ouvrant l'inconnu du désir. Nana souriait toujours, mais d'un sourire aigu de mangeuse d'homme. « Fichtre !» dit simplement Faucherie à la Faloise. Mars, cependant, accourait au rendez-vous avec son plumet et se trouvait entre les deux déesses. Il y avait là une scène que Prulière joua finement. Caressé par Diane, qui voulait tenter sur lui un dernier effort avant de le livrer à Vulcain, cajolé par Vénus, que la présence de sa rivale stimulait, il s'abandonnait à ses douceurs d'un air béat de coq en pâte. Puis, un grand trio terminait la scène, et ce fut alors qu'une ouvreuse parut dans la loge de Lucy Stewart et jeta deux énormes bouquets de lilas blancs. On applaudit. Nana et Rose Mignon saluèrent, pendant que Prulière ramassait les bouquets. Une partie de l'orchestre se tourna en souriant vers la baignoire occupée par Stenner et Mignon. Le banquier, le sang au visage, avait de petits mouvements convulsifs du menton, comme s'il eût éprouvé un embarras dans la gorge. Ce qui suivit acheva d'empoigner la salle. Diane s'en était allée furieuse. Tout de suite, assise sur un banc de mousse, Vénus appela Mars auprès d'elle. Jamais encore on n'avait osé une scène de séduction plus chaude. Nana, les bras au cou de Prulière, l'attirait, lorsque Fontan, se livrant à une mimique de fureur cocasse, exagérant le masque d'un époux outragé qui surprend sa femme en flagrant délit, parut dans le fond de la grotte. Il tenait le fameux filet aux mailles de fer. Un instant, il le balança, pareil à un pêcheur qui va jeter un coup d'épervier. Et, par un truc ingénieux, Vénus et Mars furent pris au piège. Le filet les enveloppa, les immobilisa dans leur posture d'amants heureux. Un murmure grandit, comme un soupir qui se gonflait. Quelques mains battirent. Toutes les jumelles étaient fixées sur Vénus. Peu à peu, Nana avait pris possession du public, et maintenant chaque homme la subissait. Le rut qui montait d'elle, ainsi que d'une bête en folie, s'était épandu toujours davantage, emplissant la salle. À cette heure, ses moindres mouvements soufflaient le désir. Elle retournait la chair d'un geste de son petit doigt. Des dos s'arrondissaient, vibrant comme si des archers invisibles se fussent promenés sur les muscles. Des nuques montraient des poils follets qui s'envolaient, sous des haleines tièdes et errantes, venues on ne savait de quelle bouche de femme. Faucherie voyait devant lui l'échappée du collège que la passion soulevait de son fauteuil. Il eut la curiosité de regarder le comte de Vandœuvre, très pâle, les lèvres pincées. Le gros Stenner, dont la face apoplectique crevait. La Bordette, lorgnant d'un air étonné de Maquignon, qui admire une jument parfaite. Daguenet, dont les oreilles saignaient et remuaient de jouissance. Puis, un instinct lui fit jeter un coup d'œil en arrière, et il resta étonné de ce qu'il aperçut dans la loge des Muffas. Derrière la comtesse, blanche et sérieuse, le comte se haussait, béant, la face marbrée de taches rouges, tandis que, près de lui, dans l'ombre, les yeux troubles du marquis de Choire étaient devenus deux yeux de chat, phosphorescents, pailletés d'or. On suffoquait. Les chevelures s'alourdissaient sur les têtes en sueur. Depuis 3 heures qu'on était là, les haleines avaient chauffé l'air d'une odeur humaine. Dans le flamboiement du gaz, les poussières en suspension s'épaississaient, immobiles au-dessous du lustre. La salle entière vacillait, glissait à un vertige, lasse et excitée, prise de ces désirs ensommeillés de minuit qui balbutient au fond des alcôves. Et Nana, en face de ce public pâmé, de ces 1500 personnes entassées, noyée dans l'affaissement et le détraquement nerveux d'une fin de spectacle, restait victorieuse avec sa chair de marbre, son sexe assez fort pour détruire tout ce monde et n'en être pas entamée. La pièce s'acheva. Aux appels triomphants de Vulcain, tout l'Olympe défilait devant les amoureux avec des « oh » et des « ah » de stupéfaction et de gaillardise. Jupiter disait « Mon fils,
Je vous trouve léger de nous appeler pour voir ça. » Puis, un revirement avait lieu en faveur de Vénus. Le cœur des cocus, introduit de nouveau par Iris, suppliait le maître des dieux de ne pas donner suite à sa requête. Depuis que les femmes demeuraient au logis, la vie y devenait impossible pour les hommes. Ils aimaient mieux être trompés et contents, ce qui était la morale de la comédie. Alors, on délivrait Vénus, Vulcain obtenait une séparation de corps, Mars se remettait avec Diane, Jupiter, pour avoir la paix dans son ménage, envoyait sa petite blanchisseuse dans une constellation. Et l'on tirait enfin l'amour de son cachot, où il avait fait des cocottes au lieu de conjuguer le verbe aimer. La toile tomba sur une apothéose, le cœur des cocus agenouillé, chantant un hymne de reconnaissance à Vénus, souriante et grandie dans sa souveraine nudité. Les spectateurs, déjà debout, gagnaient les portes. On nomma les auteurs et il y eut deux rappels au milieu d'un tonnerre de bravo. Le cri « Na, 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 na !» avait roulé furieusement. Puis, la salle n'était pas encore vide, qu'elle devint noire. La rampe s'éteignit, le lustre baissa, de longues housses de toile grise glissèrent des avant-scènes, enveloppèrent les dorures des galeries. Et cette salle, si chaude, si bruyante, tomba d'un coup à un lourd sommeil, pendant qu'une odeur de moisie et de poussière montait. Au bord de sa loge, attendant que la foule se fût écoulée, la comtesse Muffa, toute droite, emmitouflée de fourrure, regardait l'ombre. Dans les couloirs, on bousculait les ouvreuses qui perdaient la tête parmi des tas de vêtements écroulés. Faucherie et la Faloise s'étaient hâtées pour assister à la sortie. Le long du vestibule, des hommes faisaient la haie, tandis que du double escalier, lentement, deux interminables queues descendaient, régulières et compactes. Stenner, entraîné par Mignon, avait filé les premiers. Le comte de Vandœuvre partit avec Blanche de Sivry à son bras. Un instant, Gaga et sa fille semblèrent embarrassés, mais la Bordette s'empressa d'aller leur chercher une voiture, dont il referma galamment la portière sur elle. Personne ne vit passer Daguenet. Comme l'échappée de collège, les joues brûlantes, décidée à attendre devant la porte des artistes, courait au passage des panoramas, dont il trouva la grille fermée, Satin, debout sur le trottoir, vint le frôler de ses jupes. Mais lui, désespéré, refusa brutalement, puis disparut au milieu de la foule, avec des larmes de désir et d'impuissance dans les yeux. Des spectateurs allumaient des cigares, s'éloignaient en fredonnant « Lorsque la Vénus rôde le soir ». Satin était remonté devant le café des variétés, où Auguste lui laissait manger le reste de sucre des consommations. Un gros homme, qui sortait très échauffé, l'emmena enfin dans l'ombre du boulevard, peu à peu endormi. Pourtant, du monde descendait toujours. La Faloise attendait Clarisse. Fauchery avait promis de prendre Lucy Stewart avec Caroline Ecquet et sa mère. Elles arrivaient. Elles occupaient tout un coin du vestibule, riant très haut, lorsque les Muffa passèrent, l'air glacial. Bordenave, justement, venait de pousser une petite porte et obtenait de Fauchery la promesse formelle d'une chronique. Il était en sueur, un coup de soleil sur la face, comme grisé par le succès. « En voilà pour 200 représentations !» lui dit obligeamment la Faloise. « Paris entier va défiler à votre théâtre !» Mais Bordenave, se fâchant, montrant d'un mouvement brusque du menton le public qui emplissait le vestibule, cette cohue d'hommes aux lèvres sèches, aux yeux ardents, tout brûlants encore de la possession de Nana, cria avec violence « Dites donc à mon bordel, bougre d'entêté !»